Capstan Talk, le podcast de Capstan Avocat, un podcast dédié au droit social et aux relations sociales, des rencontres animées par Arnaud Martineau. Bonjour Philippe Coursier. Philippe Coursier, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Cité. Vous êtes membre du conseil scientifique du cabinet Capstan Avocat. Nous avons déjà échangé à propos de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, mais nous avions réservé un podcast spécial, original, totalement dédié à une question qui est une question importante et qui trouve ici une place importante au sein de cette loi de 2023. C'est la lutte contre la fraude sociale. Alors d'emblée, une première question, en quoi ces mesures qui sont destinées à renforcer la lutte contre la fraude sociale, en quoi ces mesures sont susceptibles d'affecter les entreprises, Philippe ?
Tout ce qui touche à la lutte contre la fraude est susceptible d'impacter immédiatement les entreprises parce que la fraude a finalement peut prendre deux visages, la fraude aux cotisations. Or là, les entreprises sont elles-mêmes responsables à la fois du précompte, du prélèvement et du reversement des cotisations en direction des URSSAF. Et donc à ce titre-là, c'est elles qui sont responsables et qui rendent des comptes aux URSSAF de la bonne réalisation de ces opérations. Et donc dès qu'on renforce la lutte contre la fraude, même si l'entreprise n'a pas forcément cherché à frauder, elle est susceptible de tomber sous les fourches codines de ces nouvelles dispositions. Et à ce titre-là, bien sûr, c'est intéressant, ça les intéresse au premier chef. Et puis la fraude, il nous faudra peut-être dire également quelques mots tout à l'heure, de la fraude aux prestations, qui en tant que telle n'intéresse pas directement l'entreprise dans la mesure où ce n'est pas elle qui se rend coupable de fraude, puisque ce n'est pas elle qui effectivement a vocation à toucher des prestations de la part de la sécurité sociale. Mais néanmoins, nous verrons que indirectement, ces mesures de renforcement contre la fraude dans le domaine des prestations sont susceptibles de les impacter.
Merci Philippe pour cette présentation générale. Alors, si on va plutôt au cœur de la machine là, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en est à propos de la procédure d'abus de droit au bénéfice des URSSAF ? Parce que je crois qu'il y a des modifications importantes sur ce point.
Alors oui, il y a des modifications importantes parce qu'on sait les difficultés qu'ont rencontrées les URSSAF avec cette procédure d'abus de droit. C'est assez de longue date puisque finalement, on sait bien que la procédure d'abus de droit, qui est une procédure dérogatoire qui permet aux URSSAF de requalifier un montage juridique ou de requalifier une situation juridique échafaudée par l'entreprise ou dans laquelle l'entreprise peut être amenée à se trouver et de requalifier la situation pour permettre effectivement un rattrapage de cotisation par une sorte de disqualification par l'URSSAF de ce qu'a fait l'entreprise. Donc c'est une procédure dans laquelle l'URSSAF depuis de nombreuses années croit beaucoup parce qu'elle est amenée, selon la branche recouvrement, à pouvoir récupérer, à permettre de récupérer auprès des entreprises bon nombre de cotisations. Mais dans le même temps, le système a patiné parce qu'il était prévu la création d'un comité des abus de droit destiné à étudier les dossiers, à permettre effectivement de vérifier, de porter des vérifications sur la décision de disqualification initialement prise par l'URSSAF. Or, ce comité d'abus de droit n'a que très peu fonctionné, puis ensuite plus fonctionné du tout. Et donc, cela a été reproché aux URSSAF et a donné lieu effectivement à la nécessité de réviser, de revoir la procédure en la simplifiant. Autrement dit, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi de financement de la sécurité sociale simplifie le recours pour les URSSAF à la procédure d'abus de droit. Et donc, il faut bien évidemment imaginer que, suite à cette simplification de procédure, on peut imaginer que les URSSAF vont aller plus avant, vont être quelque part incités, les inspecteurs URSSAF vont être incités à recourir à cette procédure dérogatoire de l'abus de droit.
Et alors, plus précisément, cette simplification, elle se fait de quelle manière ?
Alors, elle se fait par la suppression de l'obligation qu'avaient les URSSAF de faire passer le dossier de requalification par ce fameux comité des abus de droit, et donc par une sorte de procédure allégée et D'accord. accélérée. Et donc, de ce point de vue-là, le changement est majeur. Alors, Bien sûr, le cotisant ne reste en face pas sans droit. Hein, on sait bien que le Code de la Sécurité sociale est attaché à la notion de droit des cotisants, ou de droit au pluriel du cotisant, dans l'absolu. Et de ce point de vue-là, eh bien, il y aura toujours une période contradictoire qui permettra l'échange avec l'URSSAF, en principe un délai de 30 jours, qui pourra être prorogé jusqu'à 60 jours. Et donc, de ce point de vue-là, la simplification d'un côté, on le voit bien, se fait par un léger renforcement des droits du cotisant. Et donc, voilà, c'est les changements essentiels.
Et alors, en termes de risques, en termes de sanctions, plus précisément, est-ce qu'il y a une modification sur les sanctions ?
Alors, sur les sanctions, pas de modification, c'est-à-dire que lorsque le couperet de l'abus de droit tombera, il tombera avec toujours autant de force. Et cette force, c'est quoi ? Ben, c'est notamment l'application d'une pénalité de 20%. Alors, le texte de loi nous dit néanmoins, il faudra attendre un décret en Conseil d'État qui viendra en préciser les modalités d'application de cette pénalité. Mais néanmoins, le principe de cette pénalité est à 20% est d'ores et déjà acquis. Et également, le fait que les charges de la preuve concernant les éléments que devront rapporter les inspecteurs dans leur processus de requalification des situations qu'ils sont amenés à rencontrer, a priori ne devraient pas être modifiées. Mais soyons prudents, Arnaud, nous savons que quelquefois le diable se niche dans les détails, notamment les détails des décrets. Donc il faudra attendre la sortie de ces décrets pour voir comment va s'appliquer cette réforme. Réforme qui, au passage, point important, est applicable à compter du 1er janvier 2024. Et donc, alors, bien sûr, sous réserve cependant de l'intervention du décret venant préciser les modalités d'application de la pénalité de 20%, sinon, a priori, le processus est d'application immédiate à compter du 1er janvier 2024.
Philippe, là on vient d'évoquer la fraude, la lutte contre la fraude qui pourrait être commise par l'entreprise, donc qui intéresse essentiellement les cotisations, mais il me semble qu'il y a aussi des dispositions qui sont importantes dans cette loi et qui visent cette fois à lutter contre la fraude qui serait relative aux prestations. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à propos de ces évolutions ?
Alors il y a deux dispositifs, dont l'un a réussi à passer le filtre du Conseil constitutionnel, malgré un recours qui avait été fait contre lui, c'est le renouvellement des arrêts de travail, puisque la loi de financement de la Sécurité sociale a souhaité refermer la possibilité pour les salariés de se faire renouveler leur arrêt de travail dès lors qu'ils le font par une situation de téléconsultation. En effet, l'article 65 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 limite à seulement 3 jours le renouvellement de cet arrêt de travail dès lors qu'ils auront été faits par téléconsultation. Alors, néanmoins, le texte prévoit un certain nombre d'exceptions, et c'est parce que ces exceptions ont bien été prévues par la loi que le Conseil constitutionnel a accepté d'en valider le dispositif. C'est que le renouvellement de la prescription d'arrêt de travail pourra être au-delà de 3 jours si c'est le médecin traitant du salarié qui y opère. Ça, c'est la première exception qui est admise. Et puis la seconde exception admise, c'est l'impossibilité dans laquelle pourrait se trouver le salarié d'avoir pu consulter physiquement un médecin. Et donc, dans ce cas-là, il pourra aussi être fait un renouvellement ou une prescription au-delà de 3 jours. Bien sûr, la question néanmoins qui demeurera et qui demeure aujourd'hui et qui demeurera, ça sera bien sûr d'apporter la preuve quels seront les éléments constitutifs de cette impossibilité dans laquelle le salarié entendra invoquer pour avoir justifié effectivement un recours à un arrêt de travail allant au-delà de 3 jours.
Alors, il me semble qu'il y a une mesure qui, en revanche, n'a pas passé le filtre de,
ah oui,
du Conseil
alors,
constitutionnel.
Il y a une mesure, alors c'est d'autant plus regrettable que un certain nombre d'entreprises attendaient beaucoup de cette mesure, ouais. Puisque c'était effectivement le renforcement par le canal de l'article 63 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, le renforcement du contrôle médical mandaté par l'employeur en cas d'arrêt de travail. Alors, nous savons que bon nombre d'entreprises ont par-delà la garantie salariale organisée à l'article 1226-1 du Code du travail, bon nombre d'entreprises ont mis en place des régimes de prévoyance en interne qui permettent d'aller bien au-delà des mécanismes d'indemnisation légale et que dans le cadre de cette indemnisation conventionnelle résultant des régimes de prévoyance, eh bien, les employeurs sont le plus souvent, ces régimes le prévoient et la mise en place de ces régimes, les dispositions conventionnelles qui mettent en place ces régimes le prévoient, c'est la possibilité pour les employeurs d'opérer un post-contrôle et donc à ce titre-là de pouvoir mandater un médecin pour opérer ces contrôles. La difficulté, c'est que ces contrôles sont rarement suivis d'effets, y compris même lorsqu'ils se révèlent positifs, c'est-à-dire lorsqu'ils révèlent une fraude de la part du salarié, qui finalement n'a pas été trouvé chez lui ou n'a pas été trouvé chez lui si malade que ça, et donc avec une transmission des dossiers auprès des services de contrôle médical de la Sécurité sociale et avec quelque part une impossibilité peut-être dans laquelle se trouvent les services du contrôle médical de la Sécurité sociale à pouvoir faire face à toutes les demandes. Et donc, de ce point de vue-là, la nouveauté que prévoyait la loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2024, c'était effectivement de pouvoir faire en sorte que le contrôle du médecin mandaté par l'employeur permettait une cessation des indemnités journalières servies par la Sécurité sociale. Alors, c'est ça que le Conseil constitutionnel n'a pas accepté. Est-ce que c'est lettre morte ? Oui, en l'état actuel, le texte du même coup reste assez lettre morte, même si un certain nombre de dispositions réglementaires néanmoins vont être apportées et été annoncées par le gouvernement en parallèle du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Donc il y aura néanmoins sans doute quelques aménagements et quelques nouveautés réglementaires, peut-être procédurales de ce point de vue-là, mais pas le grand changement qui était attendu. Néanmoins, le vote de ce texte et sa censure par le Conseil constitutionnel a néanmoins eu pour intérêt de faire monter sur le devant de la scène cette question et qui ne manquera pas, à mon sens, de revenir dans un avenir plus ou moins proche, peut-être dans la prochaine loi de financement de la Sécurité sociale, avec du même coup une rédaction différente du texte et qui lui permettra peut-être cette fois de passer le cap du contrôle constitutionnel.
Eh bien, j'espère que vous également, vous accepterez de revenir pour parler d'autres choses encore relatives à la protection sociale, notamment. Merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces précisions et à très bientôt.
Avec beaucoup de plaisir, Arnaud. Merci à vous pour votre invitation. Merci.